Le silence des petits papiers, chapitre 11. C'est par un après-midi chaud que le père Léonard rejoignit sa dernière demeure. Jean-Christophe l'accompagna jusqu'au cimetière. À la droite de sa tombe se trouvait celle de Timothée Duraz. Cette coïncidence l'interpella. Le destin fabrique parfois de curieux raccourcis et vous ramène sur des voies laissées à l'abandon. Une centaine de personnes écoutèrent les dernières paroles de l'officiant, avant de confier la dépouille du moine à l'éternité. Ce fut sobre, conformément aux souhaits du brave homme. Sa vie avait été consacrée au paria de la terre. L'apparat ne convenait pas à sa personnalité. Le cercueil fut descendu dans la fosse creusée le matin même par les ouvriers municipaux. Josette respecta les volontés de son oncle. Pas de fleurs. Rien d'ostentatoire. Elle fit une seule exception. Elle posa un pot contenant une plante qu'il avait rapportée dans ses bagages. Il s'agissait d'une espèce de cactus poussant sur les hauts plateaux andins. Elle accomplit un autre geste symbolique. Elle jeta de la terre rouge, celle que Léonard avait ramassée dans une vieille blague à tabac. Quelque part de l'autre côté de l'océan se trouvait l'autre patrie de ce citoyen. Son pays se nommait Fraternité. La moyenne d'âge des participants aux obsèques était élevée. Seuls les anciens connaissaient le défunt. Ils ne quittaient pas souvent la propriété, et de ce fait, beaucoup de jeunes gens ne l'avaient jamais rencontré. Sa discrétion rajoutant à sa retraite avec Josette et Judas. Avant de quitter les lieux, il détailla la demeure du voisin de droite. Hormis un bouquet de fleurs posé récemment, il ne vit rien de plus que la fois précédente. Timothée reposait ici depuis 1957. Cela faisait plus de 50 ans. Jean-Christophe alla jusqu'au bout de l'allée afin de sortir en passant devant le caveau de la famille Duraz. Avant de bifurquer, deux inscriptions lui firent hausser le sourcil. Sur une pierre tombale, son regard percuta sur deux noms. Aurélien Pellissier et Donatella Pigliotti. Un bouquet de fleurs identiques était posé sur la dalle de marbre où reposaient Madeleine, Mélanie, Ambroise et leur mère Marie. Il haussa une seconde fois le sourcil. Ce tic exprimait son étonnement. Son épouse le sermonnait lorsqu'elle remarquait cet automatisme. Aujourd'hui, personne ne surveillait ses petites manies. Il pouvait leur laisser le champ libre. Décidément, il n'y avait pas que le père Lachaise pour attiser la curiosité du passant, se dit-il. En l'espace de 2 minutes, il venait de s'apercevoir qu'après la mort, il restait des âmes dévouées pour rendre visite au lieu de repos éternel et le fleurir. Il vagabondait dans ses pensées, tout en quittant le père Léonard. Ce dernier avait entrouvert des portes aujourd'hui à peine entrebâillées. Au-delà, il n'était pas certain d'y trouver la lumière. Il rentra chez lui, l'esprit toujours occupé par l'affaire Duraz. Il s'interrogeait sur la suite à donner à cette missive égarée dans sa boîte à lettres. Il poussa sa réflexion jusqu'à s'interroger sur la main qui avait glissé l'enveloppe chez lui. Et si ce n'était pas une erreur, mais l'acte volontaire du véritable destinataire ou d'une autre personne. Il pensa qu'un début de paranoïa le gagnait. Et évacua cette hypothèse farfelue. Il rejoignit la table et parcourut à nouveau les coupures de journaux. Il essayait de déceler le plus petit indice lui permettant d'avancer dans ses recherches. Il consulta ses notes en s'attardant longuement sur l'arbre généalogique qu'il s'employait à reconstituer. La famille Duraz l'intéressait principalement. Les Pellissiers ainsi que les Pigliotti se rajoutaient à sa liste. Son intime conviction lui indiquait que la tombe d'Aurélien Pellissier et de Donatella Pigliotti possédait une clé. À lui de la trouver en intégrant ces deux personnages dans l'histoire. En attendant de rencontrer Josette, il entreprit de recenser les informations dont il disposait sur chaque membre répertorié. Mélanie, Madeleine et Ambroise Duraz furent rapidement rangés. Leur décès ne souffrait pas l'ombre d'un doute. Ce n'est pas vers eux qu'il devait orienter ses investigations. L'Italie revenait souvent. Était-ce dû à la proximité géographique ou à quelques éléments du puzzle égarés de l'autre côté des Alpes? Il était persuadé qu'un infime détail caché dans chaque article lui permettrait d'avancer. Il lut et relut chaque phrase. Les mots demeuraient hermétiques à ses élucubrations. Ça lui prenait la tête. Il mélangea les papiers afin de les lire dans un ordre différent. Rien n'y fit. Il surnageait dans ses eaux troubles sans en apercevoir la rive. En revenant d'une longue journée de travail, son épouse le découvrit affaissé sur la table. Inquiète, elle se précipita vers lui. Elle esquissa un sourire en entendant son ronflement caractéristique. Il s'était assoupi sur son casse-tête. Elle le laissa continuer à jouer sa musique habituellement nocturne. Elle fila se changer avant de songer à le réveiller. Il roupilla quelques minutes supplémentaires avant qu'un fumet agréable chatouille ses narines, stoppant net son puissant vibrato. Il n'apprécia pas de s'être endormi. Le sujet ne s'y prêtait pas. Il laissa son bureau en l'état et rejoignit sa compagne. Il déposa un tendre baiser au creux de son épaule dénudée. Elle lui rendit et lui demanda s'il s'était bien imprégné des derniers marronniers. L'esprit embrumé, il ne saisit pas le sens de cette phrase. « Alors, mon ami, tu dors sur des coupures de presse. Regarde-toi dans la glace. Je ne comprends rien à ton charabia. Passe par la salle de bain et tu saisiras la véracité de mes propos. » Il s'exécuta, se contempla dans le miroir et put ainsi lire les lettres inscrites sur sa joue gauche. « Merci pour le marronnier. Ta formule s'apparente plus à un bon mot qu'à une vérité. Ces articles sont tout ce que tu veux, sauf ça. Je te le concède, mais avoue que ta façon de lire le journal et d'intégrer l'information est assez insolite. J'adore ta mauvaise foi. Allez, va, le dîner est prêt. Tu t'es surpassé. Qu'est-ce qui sent si bon? Surprise, tu n'en sauras rien avant de l'avoir dans ton assiette. En attendant, raconte-moi tes péripéties de la journée, sauf ta petite sieste. Rien de bien folichon, une messe, un enterrement et un somme. Le tout dans l'ordre indiqué. Ce soir-là, la télévision ne vint pas s'inviter dans leur soirée. Ils s'installèrent confortablement au salon et échangèrent en buvant une tisane. Le résultat des investigations. Elle trouvait que la brume s'épaississait de jour en jour. Lui, au contraire, pensait avancer. L'accumulation d'éléments nouveaux n'était pas pour lui déplaire. Cela mettait du sel à ses recherches. Aurélien Pélissier et Donatella Pigliotti mobilisaient ses neurones. Ils étaient nés en 19 et 24 du siècle précédent. 1946, la même année de décès, était gravée dans le marbre. Ils partirent jeunes pour le royaume des Hautes Terres. Leur fin prématurée devait être accidentelle. La guerre était finie. Il se persuada qu'une nouvelle visite à Yvonne Pivier s'imposait.